Que Dieu vous bénisse. Alors sur ce, on va prier et après quoi on va aller dans l'étude de ce matin. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes. Un moment, Seigneur, où nous plongeons notre regard dans ta parole et à travers laquelle, Seigneur, nous recevons la nourriture dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Que cette parole, Seigneur, puisse trouver un cœur qui t'est dévoué, qui est enclin à toi et qui a été travaillé pour recevoir ta parole, afin que celle-ci s'enracine, croisse en nous sous l'effet de ton esprit, de ta sagesse et de ta grâce, et qu'elle puisse croître jusqu'à porter un fruit qui t'est agréable, ici-bas sur terre durant notre vivant, mais aussi dans l'éternité, là où nous passerons, Seigneur, le restant, Seigneur, de l'éternité en ta présence. Donc nous prions, Seigneur, que tu nous bénisses, que tu nous rassasies et que tu nous instruises ce matin. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, depuis dimanche, on étudie la maison de l'Éternel, la locution qui est souvent mentionnée par David dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes. Et parfois, ça va être la maison de Dieu, la maison de l'Éternel. C'est les deux phrases qu'on étudie à travers tous ces écrits dans le livre de Psaumes. Donc, hier, on a vu cinq versets qui allaient jusqu'au psaume 35 avec cette locution, la maison de l'Éternel. Et on a fait ressortir différents points. Et aujourd'hui, on va voir quatre autres versets. Le premier, je vais vous inviter à ouvrir avec moi, se trouve dans Psaume au chapitre 36, le verset 9. Psaume 36, le verset 9. Et je lis pour vous. « Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. » Si on s'arrêtait simplement à une lecture, je dirais, de premier niveau, avec les mots qui sont utilisés, que ce soit dans notre Bible en français, pour ceux qui lisent peut-être en anglais ou en espagnol, la parole est toujours efficace et toujours appropriée, même dans ce premier mot, dans ce premier niveau de langue. Mais on va voir que si on approfondit un peu plus, il y a des secrets, il y a des merveilles qui nous sont cachées et qui prennent un peu plus d'équipement, on va dire, pour pouvoir les déterrer et les faire sortir à la lumière. Donc ici, David est en train de dire que dans cette maison, il y aura abondance. Et abondance en grand niveau. Le terme rassasié, ici, c'est le terme rava, R-A-V-A-H, en hébreu, R-A-V-A-H, qui veut dire qu'il a été rassasié à satiété. Ça veut dire j'ai tellement mangé que je n'ai plus du tout, mais plus du tout, le sentiment de faim. Rassasié jusqu'à saturation. Ça veut dire que si j'en mange encore un peu plus, ben ça va finir par déborder. J'ai été, et le terme rava veut aussi dire avoir été complètement trempé. C'est comme s'il y a une averse qui tombe sur nous, un gros orage, et on n'est pas simplement mouillé un peu, mais on est détrempé. Alors l'idée ici, c'est que la provision de Dieu, la bénédiction de Dieu dans sa maison, elle est abondante. Et tellement abondante que si elle commence à se déverser sur nous, sous forme de nourriture, on va être rassasié à opulence. Et si elle tombe sur nous comme une pluie, eh bien, on va en être détrempé complètement. Mais de surcroît à ça, et ça c'est déjà une bénédiction, savoir aussi qu'on va boire au torrent de Dieu, il nous abreuve, et encore là, c'est la notion d'être irrigué, d'être pourvu en eau, mais pourvu de façon abondante. Et on est pourvu par un torrent qui est tout le temps en train de se rafraîchir. C'est pas comme si c'était un lac ou une flaque d'eau ou un dépôt d'eau qui peut tarir ou qui peut tout simplement sécher et s'évaporer. Ici, on parle d'un torrent, donc quelque chose qui a de la vie, quelque chose qui coule à profusion, quelque chose qui ne s'arrête pas. Et de surcroît à ça, un mot important que j'ai découvert lorsque j'étudiais ces différents textes, le terme déchaîne pour abondance. Déchaîne, c'est D-E-S-H-E-N. Déchaîne, D-E-S-H-E-N. Et ici, abondance, on pourrait tout simplement penser que c'est le fait que c'est en opulence, c'est beaucoup. Mais ça va aussi dans la description même de la bénédiction qui est donnée ou de la provision qui est apportée par Dieu. Déchaîne, ici, veut dire le gras de l'offrande ou le sacrifice de graisse qui était donné à Dieu. On sait qu'il y avait plusieurs sacrifices qui étaient offerts au Seigneur. Un d'entre eux qu'on va appeler l'Holocauste ou l'offrande qui s'élève. Et dans cette offrande, c'était des victimes animales. Une partie de l'offrande pouvait aller au sacrificateur et aux Lévites qui pouvaient se nourrir, mais il y avait une partie particulière qui devait rester sur le feu et qui devait être consumée complètement. Et lorsque les cendres de cette offrande restaient, on les prenait par la suite, le sacrificateur avec des vêtements encore tout particuliers, et allait les jeter dans un endroit spécifique à l'extérieur de la ville. Et ici, on parle effectivement de ce grade de l'offrande, ce grade de l'offrande qui était réservé strictement à Dieu. Lorsqu'on amenait, on va dire, un agneau à être sacrifié, une partie de l'épaule notamment pouvait être donnée comme nourriture au sacrificateur et aux différents ouvriers lévites et à la famille du sacrificateur. Par contre, quand on parlait du gras, il restait là. Pourquoi? Parce que le gras brûlait, augmentait la flamme de par sa chimie physique, le fait que la graisse, vous savez, quand vous faites un barbecue et que vous avez de la peau ou du gras qui tombe sur la flamme, qui commence à fondre, qui tombe sur la flamme, ça fait deux choses. La flamme s'excite, la flamme augmente, et de surcroît à ça, l'odeur qui est dégagée par le barbecue augmente aussi. Et c'était deux choses que Dieu appréciait. Donc le feu, il le faisait descendre du ciel, le gras était amené comme offrande à Dieu et faisait augmenter ce feu qui était initialement descendu. Et cette offrande était considérée comme la nourriture de Dieu ou comme étant propriété strictement de Dieu. Qu'est-ce que ça dit pour toi et pour moi? Ici, il est en train de dire: on se rassasira de l'abondance de ta maison. On peut le voir dans deux ou trois façons de l'interpréter. Premièrement, de façon factuelle, ça voulait dire que servir Dieu devait nous rassasier. On apportait cette part de gras sur l'offrande et l'offrande qu'on offrait à Dieu devait déjà nous satisfaire. La pensée de être dans la maison de Dieu était déjà un contentement en soi. Avoir accès à la présence de Dieu était un contentement, était une grâce en soi. Et je me demande, pour nous qui avons cette liberté de nous approcher de Dieu, pour nous qui, jusqu'à il y a 3 mois, 3 mois et demi, avions cette liberté de nous côtoyer dans la maison de Dieu. Mais est-ce que cette liberté était savourée? Est-ce que cette liberté était appréciée à son juste titre? Est-ce que j'étais heureux de pouvoir me tenir en présence de mes frères devant le Seigneur dans un culte qui lui était rendu? Est-ce que l'offrande qu'on offrait tous ensemble était quelque chose qui déjà me contentait? Et là, on va me dire, mais pourquoi ça devrait me contenter? Qu'est-ce que moi j'en tire? Mais n'oublions pas, nous sommes des graciés, nous sommes des gens qui n'avaient pas accès à la présence de Dieu, contrairement aux Lévites et aux souverains sacrificateurs qui, lui, pouvaient au moins rentrer dans le lieu très saint une fois par année. Nous, contrairement à lui, on n'avait pas le droit. Mais la Bible nous dit que lorsque Jésus est mort, le voile s'est déchiré et qu'il a ouvert pour nous une libre entrée, un libre accès à la présence de Dieu. Et ça, on y a accès par grâce, parce que nous avons été sanctifiés, parce que nous avons été graciés. Donc le premier point, est-ce que je me satisfais à venir dans la présence de Dieu, à lui offrir un sacrifice d'action de grâce, à lui offrir un sacrifice de bonne odeur? Est-ce que ça me satisfait déjà pleinement, ou je suis dans ce calcul un peu mercantile, un peu pécunier, où je dis je m'approche de Dieu, mais en retour, je veux autre chose, où je m'approche de lui dans le but d'obtenir quelque chose par la suite? Ici, David va dire simplement, le fait de te présenter une offrande est déjà une grâce et déjà une bénédiction. De surcroît à cela, je pense qu'il y a un aspect aussi prophétique à ce mot déchaîne, à ce mot déchaîne ou déchaîne comme vous voulez le prononcer, à ce grade de l'offrande qui dans vos Bibles en français est traduit par abondance. Je crois ici qu'il parle de ce lieu d'intimité avec Dieu, où David annonce qu'il va y avoir un moment où nous tous, nous pourrons être à ta table. Et la Bible nous dit que lors des noces de l'agneau, lors de cette communion initiale entre l'Église et Jésus, lorsque les noces de l'agneau vont être célébrées, la Bible nous dit que nous aurons un majestueux festin qui sera offert pour ces noces. Et à ce moment-là, nous serons invités à la table de notre Seigneur. Jusqu'à ce moment-là, oui, nous avons accès de façon spirituelle, mais de façon factuelle, un jour, nous aurons effectivement le droit de nous asseoir à la table même de Dieu et de festoyer avec notre Seigneur, avec notre Maître, avec l'Époux de l'Église. Et je pense qu'il y a cet aspect prophétique qui vient ici aussi, entrer en ligne de compte, où David se réjouit prophétiquement de ce jour où nous tous, conjointement à David, nous aurons accès à l'abondance ineffable, complète de la présence et de la maison de Dieu. Un deuxième verset aujourd'hui, dans Psaume au chapitre 42, le verset 5. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Psaume 42, le verset 5. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie, des actions de grâce et d'une multitude en fête. Ici, l'aspect important, c'est l'aspect foule et l'aspect marcher à sa tête. David est en train de dire, je me rappelle à une époque où j'avançais avec la foule entière. J'étais au milieu de la foule, en fait j'étais devant la foule et toute la foule ensemble, nous avancions dans la présence de Dieu. Foule, c'est le terme kak en hébreu, C-A-K qui veut dire beaucoup de gens, qui veut dire toute l'assistance et qui veut dire la multitude. Et avancer à sa tête, c'est le terme dadar, D-A-D-A-H, D-A-D-A-H, qui veut dire déambuler lentement, diriger, conduire. Qu'est-ce que David est en train de dire ici? Il est en train de dire que pour la maison de Dieu ou dans la maison de Dieu et dans l'approche à la maison de Dieu, il y a ce que j'appellerais un communitarisme ou un communautarisme plutôt enjoué. Nous vivons en communauté. L'Église doit fonctionner en communauté. Oui, il y a quelqu'un qui marche à la tête. Oui, dans le peuple de Dieu, il y a malgré tout une hiérarchie et il y a malgré tout des rangs, des postes, des positions attribuées à tous et chacun. Et ces postes-là ne sont pas des postes de dignité et des postes moins dignes. Ce ne sont pas des postes d'honneur et des postes qui vont avec un certain déshonneur. C'est tout simplement des postes fonctionnels. Donc, il y a les sacrificateurs devant, il y a David, le roi, qui conduit le peuple par la suite, et il y a l'ensemble des familles, et ces familles-là fonctionnaient aussi, comme dans l'Ancien Testament, avec une structure. Donc, il y avait les leaders des familles qui se positionnaient de différentes manières. Donc, ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? La vie de l'Église, la vie de la maison de Dieu, c'est une vie en communauté. L'endroit parfait, ou l'endroit où la perfection même de la vie communautaire devrait exister, c'est dans l'Église. Rappelons-nous, même dans le Nouveau Testament, il y avait une vie communautaire. La Bible nous dit que les gens vendaient leurs propriétés et mettaient tout en commun pour que dans l'Église, il n'y ait aucun indigent. C'est une notion qui a été perdue, cette implication sociale et communautaire de l'Église, parce qu'avec le temps, les gouvernements en sont venus à prendre cette responsabilité sur eux, et c'est une bonne chose, mais de surcroît à ça, je crois que l'Église, malgré tout, a laissé passer un côté important de ce qui faisait d'elle ce qu'elle était dans l'Église primitive, dans le début de son existence, et qui était que nous prenions soin de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, de l'indigent, à un tel point où la parole de Dieu nous dit que dans l'Église initiale, dans l'Église primitive, il n'y avait donc personne qui était indigent parce que les besoins des uns et des autres était comblé. Donc l'Église doit être cet endroit de communautarisme, mais de surcroît à ça, c'est un communautarisme qui est enjoué. On y sent du plaisir, on y sent de la joie, on y sent une exultation qui émane de l'ensemble des composantes de cette communauté unie. Le meilleur exemple très factuel que j'ai, c'est l'exemple de la tablée. Les fous rires que nous avons à servir notre prochain, à leur offrir un repas chaud, les moments de grande joie, de partage, de communion que nous avons alors que nous servons les gens du quartier. Je pense que c'est un peu l'image que nous devrions avoir de ce que doit être l'Église, cette vie en communauté, cette communion fraternelle qui est enjouée et qui est exaltante. Prochain passage, dans Psaume au chapitre 52, donc 10 chapitres plus loin, Psaume 52, et là une notion intéressante. Le verset 10, Psaume 52, le verset 10 dit, Et moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu. Éternellement et à jamais. Je répète, Psaume 52, le verset 10, Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Le point important ici, verdoyant, le terme ra'anan, je répète ra'anan, qui s'écrit R-A, apostrophe A-N-A-N. Je répète, R-A apostrophe A-N-A-N. Et ici, de verdoyant, ça veut dire que il est luxuriant. Son feuillage reste constamment vert. Un peu comme cette pensée qu'on retrouve dans le psaume 1, où on nous dit qu'on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui reste vert, même dans la sécheresse, et qui même dans la sécheresse arrive à donner son fruit. Donc ici, on parle d'être capable de rester luxuriant, verdoyant, très frais, tout en feuilles, et voire même de passer de cet état un peu vieillissant avec des feuilles qui commençaient à jaunir, à rougir, bien que ce soit beau, c'est quand même le prémisse d'un vieillissement, le prémisse d'une pause. Et ici, dans Verdoyant, dans le thème Ra'anan, on parle aussi d'avoir cette capacité à reverdir, cette capacité à restaurer le verdâtre de nos feuilles. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la fontaine de jouvence, la fontaine de réjuvénation, donc la fontaine qui nous permet de rester jeunes, elle se trouve dans la communion fraternelle et dans la maison de Dieu. Ici, David est en train de dire, moi, dans la maison de Dieu, j'arrive à rester jeune, me présenter, servir, travailler, communier dans la maison de Dieu me garde jeune. Est-ce que ça nous garde jeune physiquement? Bien sûr, vous voyez tous des cheveux blancs apparaître. Le temps fait son effet sur votre corps physique. Le jour où mon père est arrivé à l'église, il avait 32 ans. Aujourd'hui, il en a 50 et quelques de plus. Il n'a pas la même vigueur qu'autrefois. Il n'a pas la même chevelure qu'avant. Je voyais des photos de notre bien-aimé pasteur André. Et lors de son mariage, il avait des cheveux près de 30 ou 35 ans plus loin, par là. Ben, les cheveux sont tous partis. Donc, le frère André a été victime du vieillissement. Si vous voyez les côtés de mes tempes, elles ont aussi blanchi. Donc oui, physiquement, on peut vieillir, mais spirituellement, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, nous nous renouvelons constamment. Nous renouvelons l'Esprit de Dieu en nous et il nous garde frais, il nous garde verdoyants. Donc la maison de Dieu est cet endroit où nous restons jeunes spirituellement. Non seulement notre esprit est défié par la communion que nous avons avec les différentes générations de l'Église. Ceux qui fréquentent une Église savent qu'il va y avoir des enfants, qu'il va y avoir des jeunes gens et qu'il va y avoir aussi des aînés. Et à côtoyer ces différents groupes, nous sommes challengés, nous sommes mis au défi de nous adapter aux uns et aux autres et ce faisant, on est constamment renouvelé, mais de surcroît à ça, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu dans notre vie est une onction qui est constamment fraîche et renouvelée. C'est trop malheureux de voir un chrétien qui fonctionne avec des bénédictions d'antan, qui fonctionne avec tout simplement des souvenirs d'antan. Je vous ai parlé à quelques reprises de cet homme que j'ai rencontré il y a probablement maintenant une trentaine d'années, sinon plus, et qui me disait qu'il était tellement heureux 25 ans plus tôt lorsque le Seigneur l'avait appelé à le servir. Mais on savait tous deux, lui et moi, que depuis ces 25 ans, il ne s'était rien passé. Je n'ai pas de nouvelles de cet homme à savoir qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Lorsque nous nous sommes laissés il y a 25 ans, lorsque nos chemins se sont séparés il y a 25 ans, il n'était toujours pas en voie de servir Dieu 25 ans plus tard. Aujourd'hui, si la situation n'a pas bougé, ça veut donc dire que pas loin de 55 ans plus tard, cette personne serait encore en train de se réjouir de ce que Dieu lui avait donné à cette époque-là. C'est malheureux, puisque l'on sait que nous sommes près d'un torrent, où l'eau se renouvelle constamment, où la fraîcheur de l'eau est assurée, et nous, on vit avec un verre d'eau qu'on a reçu il y a 25 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans pour certains, et on admire ce verre en disant, ce verre est fantastique et cette eau est fantastique. J'aimerais te dire, une eau qui stagne, une eau qui n'est pas renouvelée est une eau qui, un, va s'évaporer, et si elle ne s'évapore pas, elle va finir par faire de la mousse, et cette eau ne sera plus appropriée et adéquate. Voilà pourquoi nous devons nous approcher du Seigneur et pourquoi nous devons prendre cette habitude de fréquenter la maison de Dieu, de fréquenter l'Église, parce que c'est là, c'est à travers cette communion que Dieu répand sur nous la bénédiction. Rappelons-nous le psaume 133 qu'on a étudié il y a quelques semaines. Qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée sur la montagne de Sion qui se répand. C'est comme la rosée. Mais vous savez que la rosée revient à tous les matins. La rosée se renouvelle à tous les matins. Donc la Bible était en train de dire, David était en train de dire dans ce psaume 133, que dans la communion des frères, la bénédiction et l'onction de Dieu se renouvelaient quotidiennement. Pourquoi t'en priverais-tu? Pourquoi passerais-tu à côté de cette merveilleuse bénédiction qu'est l'onction de Dieu et que l'on retrouve dans la communion, dans le partage, dans l'assemblée des saints et dans la louange que nous offrons de façon commune à Dieu? Dernier verset pour aujourd'hui, psaume 55, le verset 15. Et qui va dans cette même notion encore. Psaume 55, le verset 15, effectivement. Ensemble, nous vivions une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Ensemble, nous vivions une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Je répète la référence. Psaume 55, le verset 15. Douce intimité, c'est le mot important pour nous ce matin dans ce verset-là. Douce, c'est le terme matak. M-A-T-H-A-Q. Je répète, matak. M-A-T-H-A-Q. Qui veut dire s'adoucir. Qui veut dire devenir agréable. C'est pas simplement que c'est agréable. Ici, en français, c'est comme quand tu dis douce intimité, on dirait que c'est quelque chose qui est un statut qui est déjà acquis. Alors que dans la pensée de douce, dans le terme matak, c'était quelque chose qui devenait doux, et quand il était devenu doux, il était encore dans le processus de devenir encore plus doux, encore plus agréable, acquis à nous et à Dieu. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Intimité avec qui? Nous marchions, nous vivions, nous allions avec la foule. C'est qui ça, nous? C'est David avec ses proches, c'est David avec l'ensemble du peuple de Dieu. L'intimité est quelque chose qui se travaille. L'intimité, la communion fraternelle, est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose qui est infus en nous dès la première journée où nous arrivons à l'Église. Rappelons-nous, dans l'Église du Nouveau Testament, ils ont eu leurs problèmes aussi. L'Église de Jérusalem a eu ses problèmes. À un moment donné, il y a eu des clivages entre les Grecs et entre les Juifs, donc entre les Juifs d'origine grecque, entre les chrétiens d'origine grecque et entre les chrétiens d'origine juive, parce que les Grecs disaient hey, « mais comme nos mères ne sont pas juives, on leur donne moins de nourriture à elles ». Donc on a été obligé de travailler là-dessus et de voir à ce que on puisse servir équitablement l'ensemble du peuple de Dieu. C'était une tristesse, mais en même temps, c'est une bonne image pour nous aussi du travail auquel nous sommes appelés, du travail que nous avons encore à faire pour faire en sorte qu'il y ait cette communion qui s'améliore constamment et constamment et constamment. Donc, la douce intimité qu'on peut avoir avec nos frères et nos sœurs devient encore plus douce alors que nous nous côtoyons et alors que nous célébrons ensemble notre Dieu. Alors la notion importante dans ce verset-là, la communion avec tes frères, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui va se travailler, mais c'est quelque chose qui est important, qui est voulu, qui est désiré par Dieu, et quelque chose à quoi toi et moi, on doit s'atteler. Une tâche à laquelle toi et moi, on doit s'atteler, on doit travailler à fortifier, à maintenir, à encourager les liens entre nous tous. Et ces liens-là se créent, ces liens-là se travaillent, ces liens-là se développent à la maison de Dieu. Nous vivions ensemble en douce intimité et nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Cette semaine, on veut essentiellement nous rappeler combien il est important, alors que nous rouvrons les portes de l'Église, combien il est important de profiter de cette communion au maximum et de ne pas s'en priver. Alors, on est en train de préparer les différents groupes qui auront le droit de venir bientôt se rassembler avec nous. On veut préparer vos cœurs, on veut préparer votre attitude, on veut s'assurer que lorsqu'on va revenir tous ensemble, on soit encore meilleur que nous l'étions avant le confinement. On veut s'assurer que lorsqu'on aura tous le droit, effectivement, de se rejoindre pour célébrer notre Dieu tous ensemble, on ait compris et saisi l'importance de la maison de Dieu. Alors, j'espère que vous êtes mis au défi par la parole de ce matin. J'espère que ça vous donne encore plus de désir de fréquenter la maison de Dieu. Et j'espère que ça vous donne la résolution d'abandonner peut-être les habitudes que nous avions par le passé, qui faisaient en sorte qu'on montrait une espèce de nonchalance par rapport à la maison de Dieu. David se satisfaisait d'être tout simplement dans la présence de Dieu et dans la maison de Dieu. Même s'il n'en tirait rien de factuel pour lui ou de tangible pour lui, simplement être dans la maison de Dieu rassasiait son âme et son esprit. La communion qu'il entretenait avec ses frères et avec ses sœurs en la foi rassasiait, encourageait son âme et son esprit. Et ça devrait être la même chose pour toi et pour moi. Alors prions pour nous, prions pour notre attitude, prions pour notre réaction et notre positionnement par rapport à l'Église. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette parole ce matin où tu nous rappelles l'importance de ton Église, l'importance de la maison de Dieu, du Bayit Yehovah. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu nous permets avant qu'on ne puisse tous se rassembler de nouveau ensemble. Tu nous permets, Seigneur, d'étudier l'importance de la maison de Dieu et ce qu'elle devrait susciter en nous. Est-ce que je suis encore heureux de rejoindre mes frères et mes sœurs à la maison de Dieu? Est-ce que je comprends la grâce qui nous est offerte de pouvoir rentrer dans ce lieu et t'adorer tous ensemble? Est-ce que je suis conscient de la grâce que tu déverses sur nous dans ces réunions que nous avons tous ensemble? Est-ce que nous comprenons, Seigneur, l'aspect de réjuvénation, Seigneur, qui nous est accordé, ou ce processus, Seigneur, de rajeunissement, de restauration, de renouvellement constant que nous avons à nous côtoyer et à vivre ensemble dans la maison de Dieu? Seigneur, permets-nous de travailler à notre communion. Permets-nous, Seigneur, de nous bénir les uns les autres par nos partages en commun. Permets-nous, Seigneur, de vivre vraiment la communauté spirituelle que tu désires que l'on soit en étant ton Église. Alors, je bénis mon frère, je bénis ma sœur ce matin, et je prie, Seigneur, que cette parole ait trouvé un terrain fertile qui permettra à cette semence de pousser et de prendre, Seigneur, la forme que tu désireras et porter un fruit, Seigneur, qui t'honorera, qui élèvera ton nom, qui te glorifiera jusque dans l'éternité. Bénis-nous par ta grâce et par ton onction. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, qui s'est joint à nous, simplement pour que je puisse vous saluer? Je sais que ça fait partie aussi de la communion. On a dépassé un peu, mais permettez-moi de tout simplement vous saluer un peu. Donc, la dernière personne que j'ai saluée tout à l'heure, c'était la sœur Nancy. Je la resalue. Ramon, Evelyne, Dieu vous bénisse. Milly, sois bénie. Bonjour à Vlad. Bonjour à Mayakat, Dieu vous bénisse. Bonjour à Denise de l'église de Deux-Montagnes. Bonjour à Vitar. et à Javel s'il est avec toi. Bonjour à Denise de l'église de Sainte-Adèle. Bonjour à Andresse. Bonjour à Yvelin. Bonjour à Marcella de l'église de Longueuil. Bonjour à Farley, à sa maman. Bonjour à Gaëlle, Dieu te bénisse. Bonjour à la sœur Susanna et à son époux. Bonjour à Laetitia. Bonjour à la sœur Nina, au frère Rigaud de l'église de Rivière-des-Prairies. Bonjour à Natacha Indiren. Bonjour à Maria Neiva. Bonjour à Adriana. Bonjour à... Oh, il y a beaucoup de monde, hein? Gloire à Dieu. Bonjour à Marie Huguette. Bonjour à la toute nouvelle maman Joanie, sois bénie. Et puis je suppose que Alex est aussi en vacances ou en arrêt de travail. Donc soyez bénis, le papa, la maman et la petite Eva. Que Dieu vous bénisse tous trois. Content de t'avoir avec nous, Joanie. Bonjour à Chanel, mais je pense que je l'avais déjà salué. Le pasteur Joyal aussi. Louise et Michel, bonjour. Et je pense que c'est tout pour ce matin. Effectivement, Marcella, on connaît maintenant le secret de la jeunesse. Côtoyer nos frères et nos sœurs, fréquenter l'Église, rester dans la maison de Dieu. Alors j'espère que c'est un appelling pour vous. J'espère que c'est je ne sais pas comment on dit appel, faire un appelling, que c'est attrayant, encourageant pour vous, que ça vous amène à la maison de Dieu. Donc, rappel, demain matin, même si c'est journée fériée, je suis là avec vous. On continue notre étude sur la maison de Dieu. Donc, à 8h30 demain matin. Et demain soir, toujours, même si c'est journée fériée, le pasteur Sergio sera avec vous pour un temps d'étude sur le livre de Marc avec la thématique servir Dieu en des temps difficiles ou en des temps de défi. Donc, sur ce, passez tous une très très belle journée, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas ceux qui veulent venir à l'église dimanche, 55 ans et plus, pour une personne seule et pour un couple avec au moins une personne ayant plus de 65 ans. Profitez de la maison de Dieu, la porte est ouverte pour ces deux groupes-là. Donc vous appelez au 514-273-8295, le numéro de l'église, vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone et vous dites, je veux venir à l'église dimanche. Et vendredi, on vous rappelle pour confirmer le tout. Donc sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir.